Nous sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclaves.
Les peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande chaîne de l'histoire.
Décolonisation.
Tourne et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante.
La lutte pour l'indépendance, c'est une petite lutte. La grande lutte, c'est la lutte pour le développement.
Sur France Inter.
Pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps et dans l'espace, Adel Tifi, historien tunisien, enseignant à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste du monde arabe. C'est l'histoire d'une statue qui se déplace au gré des vents politiques. Elle représente Habib Bourguiba, fier sur son cheval blanc, le bras levé vers le ciel. Comme il l'était ce 1er juin 1955, lors de son retour triomphal à Tunis. Sans doute le plus beau jour de sa vie. La statue a été retirée du centre de la capitale tunisienne après la déposition de Bourguiba par son tombeur, Ben Ali. Elle est exilée à Lagoulette, le port voisin. Mais en 2016, quelques années après la révolution qui emporte le régime de Ben Ali, la statue est de retour. Au début de l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère de Tunis. Elle fait désormais face à l'autre bout de l'avenue, à celle d'Ibn Khaldoun, le penseur islamique né à Tunis au XIVe siècle et dont la statue est située entre la cathédrale et l'ambassade de France. Cet aller-retour d'une encombrante statue a une part de symbolique qui dit la difficulté de faire face à l'héritage de Bourguiba. Le combattant suprême, comme il aimait à se faire appeler dans la presse officielle, a marqué le XXe siècle tunisien et assurément au-delà. Militant nationaliste, père de l'indépendance de cet ancien protectorat français, puis chef de l'État pendant plus de 30 ans, avec ses succès et sa part d'ombre. Aujourd'hui encore, la Tunisie se construit en partie en référence à son héritage, même si Bourguiba a dû abandonner le pouvoir il y a déjà 35 ans. Habib Bourguiba est né en 1903 à Monastir, une ville côtière située entre Sousse et Sfax, dans le Sahel tunisien. Rien, vraiment rien, ne le prédestinait à ce destin politique de premier plan. Il est le huitième enfant d'une famille modeste. Son père est sergent-chef dans l'armée et possède quelques oliviers pour compléter sa solde. Bourguiba est profondément marqué par la pauvreté de son enfance. Il le raconte bien plus tard, la voix chargée d'émotions, en 1975.
Je pensais surtout, n'est-ce pas, à ma situation d'être le plus petit, n'est-ce pas, le plus jeune. Je me disais, enfin, pas de chance, n'est-ce pas. J'étais un peu le domestique de tout le monde, n'est-ce pas. J'appelais mes frères aînés Sidi, c'est-à-dire Monseigneur, Monsieur, et m'arrivait parfois d'aller à l'école avec des souliers usés, troués. J'avais froid aux pieds. Je suis entré au mois d'octobre comme interne au collège Sadiki. Un mois et une semaine après, début de novembre, le surveillant général, M. Sourdon, est venu m'appeler pour me dire que ma mère est morte. Je suis rentré.
La disparition de sa mère alors qu'il n'a que 10 ans est un profond traumatisme dont il parlera toute sa vie. Mais Habib Bourguiba grandit dans une famille qui valorise l'éducation des enfants. Son père vend ses oliviers pour financer les études de ses fils. Le jeune Habib se retrouve ainsi au prestigieux collège Sadiki de la capitale. Ce lycée devient la matrice de l'élite réformiste, puis nationaliste en Tunisie. Bourguiba change de monde. Il intègre le lycée Carnot, un établissement français, grâce au soutien financier d'un de ses frères plus âgé que lui. À cette époque, très peu de Tunisiens musulmans accèdent à ce niveau d'éducation. Il obtient son bac, major de sa promotion, à égalité avec un jeune Français. Il part poursuivre ses études à Paris. Le jeune Bourguiba commence à s'ouvrir à la politique face aux discriminations du système colonial. Mais c'est à la fin de ses études supérieures, 3 ans plus tard, qu'il exprime son engagement nationaliste. La Tunisie des années 20 et 30 présente un visage colonial classique, alors qu'elle n'est administrativement qu'un protectorat. L'écrivain tunisien Eddy Kadour décrit ce contexte pour Mediapart.
S'est vu confier une mission de protectorat, c'est-à-dire à charge pour elle de guider ses peuples vers la voie du progrès et de l'indépendance. Or, assez vite, les milieux coloniaux ont considéré que, bon, évolution, mais enfin, la situation telle qu'elle, elle avait aussi tous les avantages dont on avait besoin. Au fond, il n'était pas question d'évoluer.
En 1921, le président Alexandre Millerand visite le pays et déclare que la France est associée depuis 40 ans et pour jamais aux destinées de la Tunisie. Ces années parisiennes sont pleines de surprises. Commencée dans un hôtel misérable du quartier latin, sans chauffage, elle se termine chez Mathilde, une veuve de guerre de 14 ans son aînée. « Cette femme austère m'a aussitôt plu », raconte-t-il. Il s'installe avec elle et en 1926, Mathilde est enceinte de l'étudiant tunisien qui se croyait stérile. Habib Bourguiba Junior naît le 9 avril 1927 à Paris. Il est le seul enfant du futur président. Étonnant destin que celui de Mathilde, veuve d'un officier mort dans la Grande Guerre et qui deviendra une éphémère première dame de Tunisie avant de céder la place à Wassila, la femme de la vie sentimentale mouvementée de Bourguiba. Il lui rendra néanmoins hommage en 1975.
Je suis content que j'ai vécu jusqu'à ce que ce jour où j'ai pu consacrer, récompenser tout ce que tu as fait pour moi, pour mon pays, pour ma patrie, tout ce que tu as souffert pendant les périodes de lutte, tout ce que tu as fait pour faire de mon fils un Tunisien et un musulman.
À Paris, Habib Bourguiba se plonge dans les études, le droit et les sciences politiques menées en parallèle. C'est rue Saint-Guillaume, à Sciences Po, qu'il découvrira, raconte-t-il, que le colonialisme n'était pas seulement
l'humiliation, c'était aussi l'exploitation, un déplacement de richesse. Vraiment, je n'ai pas perdu mon temps rue Saint-Guillaume.
Il s'initie à la politique. Paris est alors, selon la formule de l'historien Michael Goebel, la capitale du tiers-monde. On peut y croiser des hommes qui entreront dans l'histoire, comme le Vietnamien Ho Chi Minh ou le Chinois Chu Enlai. Mais Bourguiba est trop anticommuniste pour fréquenter ses futurs dirigeants marxistes. L'historienne Sophie Bessis le dit un temps, fascinée par le national-césarisme mussolinien qui s'installe au pouvoir en Italie. Bourguiba rentre en Tunisie en 1927. Il épouse Mathilde et il devient avocat. Il est prêt à prendre son envol. En quelques années, Bourguiba se fait un nom. Son charisme, malgré sa petite taille, son audace, sa force de conviction et son talent d'orateur font leur effet. Il rompt avec les réformistes du principal parti nationaliste de l'époque, le Destour. Et en 1934, il finit par créer son propre parti, le Néo-Destour. Il rassemble autour de lui toutes les couches de la société. Bourguiba entre de plein pied dans l'histoire de la Tunisie moderne. Le parti néo-destour a un chef, Habib Bourguiba, très vite identifié par l'administration coloniale comme un fauteur de troubles. Il sillonne la Tunisie en voiture, au contact de la population, une habitude qu'il conservera toute sa vie. Le 3 septembre 1934, il est arrêté pour la première fois et effectue son premier séjour en prison, 21 mois. Ce ne sera pas le dernier. Nous sommes avec l'historien tunisien Adel Tifi pour ce voyage dans le temps. Bourguiba a souvent fait référence à son enfance pauvre. Quelle importance réelle son milieu social a-t-il joué dans sa personnalité politique ?
Effectivement, lui-même, il évoquait en fait cette enfance. Cette enfance, je pense qu'il y a trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est que il fait partie d'une grande famille de 8 frères. Deuxième élément, c'est une situation très précaire parce que le seul revenu, c'était une très maigre retraite de son père. Troisième élément, je pense que c'est le plus important, d'ailleurs lui-même il le dit, c'est son attachement à sa mère, qui est décédée quand il avait 10 ans, en 1913. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'en fait, il était très marqué par le divorce de sa grand-mère, pour une banalité, en fait, elle a été répudiée et tout, et depuis, il était marqué par la souffrance de sa mère. Au niveau de sa personnalité, ça lui a donné un tout petit peu le sens du courage, du pragmatisme, de la persévérance. Ça, on va le voir après dans son parcours militant. Il a eu cette conscience sociétale, par exemple, de l'importance d'avoir une famille très réduite à cause de cette grande fratrie. Et c'est pour ça qu'il y a eu le planning familial très tôt en Tunisie, vers le début de 1960. 72, je pense. Il y a eu aussi la question du divorce, donc la question de la polygamie. D'ailleurs, c'est ce qui explique que 3 mois après l'indépendance de la Tunisie, la première réalisation de Bourguiba, c'était le statut du code personnel.
Quelles sont, selon vous, les influences intellectuelles qui l'ont marqué, et notamment comment se construit sa pensée pendant ses années de formation ?
Alors, la première formation qu'il avait marquée, c'était l'école Sadiki, qui représente un tout petit peu le berceau du modernisme, au niveau de l'éducation en Tunisie. Mais après, surtout, c'était son séjour en tant qu'étudiant, entre 1924 et 1927, à Paris. D'ailleurs, dès le début, il était marqué, parce que en 1924, il avait assisté au transfert des cendres de Jean Jaurès vers le Panthéon. Donc, il était un tout petit peu marqué par l'esprit de la gauche française à partir de Jean Jaurès. En plus, il était aussi ami d'un des députés, je pense, communistes, qui l'aidait beaucoup à assister aux débats, en fait, aussi, soit au Sénat, soit au Parlement. Il y a aussi, bien sûr, au niveau de la philosophie globale, il était très attiré par tous les penseurs de la modernité, de la rationalité, surtout, disons, Auguste Comte, Kant, un tout petit peu. Mais je pense, d'ailleurs, ça, il le dit lui-même, il était très attiré par Victor Hugo, très attiré surtout par Jean-Jacques Rousseau, le côté humaniste et tout, par Claude Bernard aussi, qui lui a donné le sens du pragmatisme. Dans la vie de Bourguiba, on va trouver tous ces éléments. Ce qui est un peu bizarre quand même par rapport à Bourguiba, dans ses références, on trouve peu de figures du monde arabo-islamique, à part peut-être un tout petit peu Tahar Haddad, qui était l'un des grands réformistes en Tunisie. Il avait vécu la même période que Bourguiba, parce que pour lui, c'est un éclairé, parce que pour lui, il a eu l'audace un tout petit peu de faire face à la grande université traditionnaliste, la Zaïtouna, à Tunis.
Bourguiba s'impose en seulement quelques années comme la principale figure nationaliste. Quel est, à votre avis, le secret de ce succès foudroyant ?
Alors, ce succès, il est lié à 2 choses, au contexte et aussi à la personnalité de Bourguiba. Le contexte, c'était à la fin des années 20, la fin des années 20 du XXe siècle, les autorités françaises avaient un tout petit peu durci sa politique avec une interdiction totale, par exemple, des associations et tout. Il y avait presque un désert. En plus, le leader de l'époque était Abdelaziz Talbi, le leader du vieux Destour n'était pas en Tunisie. Donc, ce qui a permis à Bourguiba de monter sur la Seine. Deuxième élément aussi social là aussi, c'est qu'il y a eu un changement au niveau de la société tunisienne. On assiste pour la première fois, dans le cadre de l'exode rural, à une nouvelle population en fait tunisienne qui s'est installée à Tunis, qui venait de la Tunisie de l'intérieur, qui vont représenter un tout petit peu une nouvelle assise au mouvement national tunisien. Donc du coup, on va partir quelque part du vieux Destour avec ses vieilles méthodes de pétition, de délégation, vers une action politique basée surtout sur le contact direct avec la population tunisienne et surtout des actions dans la rue. Bien sûr, ce qui a facilité les choses, c'est que Bourguiba était un grand orateur. Il était aussi un avocat très connu à l'époque, ce qui lui a permis quelque part de prendre le dessus sur les autres concurrents, entre guillemets.
Habiba Messika est une grande cantatrice judéo-arabe des années 20 et 30 aux engagements nationalistes.
Décolonisation. Pierre Aski sur France Inter.
Habib Bourguiba ne renonce pas à parcourir le pays pour mobiliser les masses. Il encourt les foudres de l'administration coloniale. Il passe une bonne quinzaine d'années entre la prison, la résidence surveillée et l'exil forcé. L'écrivain Albert Memmi le décrit comme un Nelson Mandela tunisien. Il est envoyé dans l'extrême sud du pays, où il fait un froid glacial la nuit et une forte chaleur le jour. Un haut fonctionnaire français explique la logique de la punition. L'exil intérieur est pour l'indigène la pire des catastrophes.
Il résiste mal à deux choses. L'anxiété de l'incertitude, car il ne sait pas quand son exil se terminera, et la crainte d'être oublié de ses amis, de sa femme surtout. La jalousie est un sentiment puissant chez l'indigène.
Bourguiba résiste et écrit au résident général, le chef de l'administration française,
« N'attendez de moi ni soumission ni rémission. »
La victoire du Front populaire en France en 1936 lui apporte un répit.
Avec un peu de bonne volonté, on arrive à tout.
Il se rend même à Paris pour prendre des contacts politiques avec les leaders de la gauche, avec l'espoir d'y trouver des soutiens pour l'indépendance de la Tunisie. Très vite, la situation se tend de nouveau en Tunisie, avec des incidents sanglants. Bourguiba, considéré comme un fauteur de troubles, se retrouve en prison. Son parti est dissous. En 1975, il visite la cellule dans laquelle il avait été détenu en 1938.
J'ai été arrêté, le parti a été dissous, n'est-ce pas? J'ai été envoyé dans ce cachot là qui existe encore, n'est-ce pas, dans la prison militaire. J'étais malade au lit. Le résident m'a envoyé un médecin, le docteur Lombroso, pour estimer que je peux continuer mon traitement en prison.
Il n'y avait pas de lumière.
Au début de la guerre, il est transféré avec plusieurs autres dirigeants nationalistes par bateau à Marseille. Enfermé au fort Saint-Nicolas, la prison militaire qui domine le vieux port. Pendant la guerre, se pose la question de l'attitude des nationalistes envers l'Allemagne, vainqueur de la France. Une partie des amis de Bourguiba souhaite la victoire des forces de l'Allemagne nazie. Pour eux, les ennemis des Français sont forcément leurs amis. Si Bourguiba a pu avoir la tentation de s'allier avec les ennemis de la France, il ne le fait pas. Déplacé de prison en prison, il se retrouve à Lyon, entre les mains du chef SS, Klaus Barbie. Celui-ci le livre aux Italiens qui ont des visées sur la Tunisie. Mais à Rome, Bourguiba et ses amis ne cèdent rien. Après 5 ans d'éloignement, Bourguiba et ses camarades rentrent en Tunisie à bord d'un avion italien. Un mois plus tard, les Américains reprennent la Tunisie aux Allemands et aux Italiens, et tous ceux qui ont manifesté leur sympathie aux occupants, ne serait-ce que par opportunisme, pour se débarrasser de la tutelle coloniale, le regrettent amèrement. Le Bey, le souverain tunisien, doit abdiquer. Bourguiba fait le dos rond, de peur qu'on lui reproche l'attitude complaisante de la direction du néo-destour. Après la parenthèse de la guerre, l'hostilité entre l'administration coloniale et le chef du néo-destour reprend de plus belle. La fin de la guerre, souligne l'historienne Sophie Bessis, est ainsi marquée en Tunisie comme dans toute l'Afrique du Nord,
par l'alourdissement de la chape de plomb d'une France crispée sur son refus d'admettre que le monde a changé et hantée par la crainte de voir les États-Unis démanteler les vieux empires coloniaux.
En 1945, Bourguiba décide de fuir la Tunisie. Il veut chercher des soutiens à l'étranger. Il fausse compagnie aux policiers qui le surveillent et il s'enfuit dans des conditions rocambolesques vers la Libye. Il s'installe au Caire, sa base pendant 4 ans. Il voyage ainsi dans le monde arabe ou aux Nations Unies. En 1951, il est rejoint aux États-Unis par Farah Tached, le très populaire dirigeant syndicaliste tunisien. Farah Tached est considéré comme une menace par les milieux coloniaux. Il sera assassiné l'année suivante par la Main Rouge, une organisation armée secrète vraisemblablement liée au service français. La mort de Farah Tached est une grande perte pour la société tunisienne. S'ouvre alors une période de forte tension entre le courant nationaliste et les autorités françaises. La revendication d'indépendance ne cesse de monter. Le pays s'embrase. Des attentats ciblent des colons français. Un engrenage de violence est enclenché. Avant même le soulèvement algérien, des maquis de Felaga, des guérilleros, voient le jour. Le contexte est lourd. La France subit une défaite cuisante à Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, face aux troupes du général communiste Giap, qui a soulevé l'enthousiasme des populations d'un bout à l'autre de l'empire colonial. Rentré dans son pays, Bourguiba est encore une fois arrêté et envoyé sur une île quasi déserte tunisienne. Puis en mai 1954, il est expédié sur l'île de Groix, au large de la Bretagne. Dans ce contexte de crise, l'arrivée à la présidence du Conseil à Paris de Pierre Mendès France le 18 juin 1954 permet une éclaircie. La gauche française a des contacts avec Bourguiba, qui accepte le principe d'une autonomie interne. Bourguiba est un adepte des petits pas qui lui permettent d'approcher du but. Cette stratégie se révèle payante.
Je suis venu aujourd'hui à Tunis pour proposer ces solutions.
Le 31 juillet, Pierre Mendès France arrive à Tunis, porteur d'une proposition d'autonomie. Il sait que ce texte a l'accord de Bourguiba.
Je suis venu pour convaincre les uns et les autres que les rancunes et la violence doivent et peuvent faire place à la confiance et à l'ordre pacifique. J'espère avoir été entendu. L'avenir de la Tunisie dira, je n'en veux pas douter, que sur cet antique pays, qui devient en union féconde avec la France un pays moderne, auront triomphé tout à la fois aujourd'hui la raison, le progrès et la paix.
Pierre Mendès France ne reste que 7 mois et 18 jours à la présidence du Conseil avant d'être renversé. Mais pour la Tunisie, ces quelques mois font toute la différence. L'historien tunisien Adel Tifi est avec nous pour cette traversée. La Tunisie a été proche d'une insurrection violente à la manière de l'Algérie. Mais qu'est-ce qui a finalement empêché que la violence ne s'installe dans le processus de décolonisation en Tunisie?
Alors, pour répondre à cette question, je voudrais dire que peut-être la situation en Tunisie, elle est presque la même au Maroc. Et effectivement, ces deux situations n'ont rien à voir avec la situation algérienne. Il y a deux éléments, à mon avis. Le premier élément, c'est, pour répondre à votre question, il faut comparer effectivement avec l'Algérie. L'Algérie était une colonisation directe, c'était une colonisation de peuplement, carrément, ce qui a donné lieu à un parti très puissant, c'est ce qu'on appelle le parti colonial. Donc, c'est le terme des historiens. Par contre, au Maroc et en Tunisie, c'est ce qu'on appelle des colonies des cols blancs. C'était une colonisation assistée par l'administration à Paris, assistée par des fonds publics et tout. Ça n'a pas donné lieu à un vrai parti colonial qui pourrait, comme ils l'ont fait en Algérie, renverser la situation en 1958, par exemple. Deuxième élément, je pense que c'est essentiel aussi, c'est que l'existence déjà au Maroc et en Tunisie en même temps, d'un État souverain, d'un État avec la tradition de la centralité du pouvoir et qui cohabitait avec les autorités françaises. Donc, il y avait des repères pour l'identité nationale tunisienne, pour l'identité nationale marocaine, ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie où, en fait, on assiste à une déchirure identitaire au sein même des Algériens autour de ce qu'on appelle la nation algérienne. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas ?
Comment caractériser le choix et l'attitude de Bourguiba pendant toutes ces années de lutte ?
Bourguiba était dans la politique, d'ailleurs il l'appelle lui-même, prendre et contester. Il accepte toutes les négociations à condition de sortir avec quelque chose et sur la base de ses acquis, il va au-delà en fait des acquis provisoires. Donc on va le voir par exemple négocier avec les autorités françaises. En même temps, on va le voir aussi déclencher la révolution armée au début des années 50. Donc en fait, il jouait sur tout le potentiel qu'il avait pour arriver à ses fins. On peut pas le classer, par exemple, ni révolutionnaire, ni réformiste, ni traditionnel, ni moderniste. Il était très, très pragmatique. On le voit surtout à cette époque-là, le début des années 50, avec ses rapports avec la France.
Bourguiba a su cultiver des amitiés côté français, notamment à gauche. Comment était-il perçu à Paris ?
Comme je l'avais déjà dit, donc il avait une certaine attirance envers la gauche puisqu'il a été marqué en fait en 1924 par la personnalité de Jean Jaurès à l'occasion du transfert de ses cendres au Panthéon. Il était aussi marqué par la question de l'injustice, durant son enfance, c'est ce qu'on avait évoqué. Il a été aidé aussi par un député communiste, comme je l'avais dit, pour assister au débat au Parlement. Mais en fait, la gauche voyait en Bourguiba en tant que leader moderniste globalement, ce qui n'est pas le cas pour la droite qui le voyait en tant qu'arrogant quelque part, on dirait de quel droit ce monsieur qui vient de l'autre rive de la Méditerranée, qui appartient à la France, il ose défier la France avec sa propre philosophie, avec sa propre culture. D'ailleurs, il n'y avait pas que Bourguiba, la majorité des leaders donc des colonies étaient vus par la droite donc de cette manière. Il y avait cette image d'arrogant quelque part, ce qui n'est pas le cas pour la gauche et surtout pour les communistes français. مادام مازلت نشوف الظلم مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب فكوا الفلوس والمناصب طيشونا كل كلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خاطينا سكتونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم صنعتوا شباب ماشي فير لما جرت البطالة ضربنا في ريس اسمه مالاد مونتال تونس بلادنا اليد في اليد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل El General est un rappeur tunisien des années 2000. Anti-dictature, il dénonce la corruption et la répression.
Décolonisation, Pierre Aski sur France Inter.
Le 1er juin 1955, Habib Bourguiba quitte son exil à l'île de Groix et regagne la Tunisie. Une foule considérable, 300 000 personnes, est là pour l'accueillir. Bourguiba est le libérateur, le combattant suprême, le héros de l'indépendance, qui n'est plus qu'une question de mois. La radio française rencontre de l'euphorie dans la capitale tunisienne.
Un avion militaire français dans lequel avait pris place Bourguiba a atterri à l'aérodrome.
Immédiatement, une foule formée de milliers de Tunisiens qui attend depuis ce matin l'arrivée du président du Néo Destour entonne l'hymne nationaliste.
Bourguiba apporte son soutien public à l'autonomie proposée par Mendès France.
En rentrant à Tunis, où l'attendait une foule dense et enthousiaste, M. Habib Bourguiba a donné sa caution personnelle aux accords conclus à Paris. Le peuple de Tunis, en retrouvant le chef du Néo Destour, acclamait l'homme qui a dit oui à une collaboration sincère entre la France et la Tunisie. À la fin de cette journée mémorable, son Altesse le Bey recevait solennellement M. Habib Bourguiba.
Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Une cassure apparaît à la tête du Néo Destour, le parti de Bourguiba. Une aile radicale, dirigée par Salah Ben Youssef, un lieutenant du dirigeant du parti. Ben Youssef est proche des combattants armés qui hésitent à déposer les armes, redoutant un marché de dupes. Ben Youssef réclame l'indépendance immédiate. Il reçoit le soutien des plus intransigeants dirigeants arabes, comme l'Égypte de Nasser et les leaders de l'insurrection algérienne. On voit apparaître un clivage au sein des élites tunisiennes entre ceux qui se tournent vers l'Occident et ceux qui regardent vers l'Orient. Cette fracture devient violente et prend l'allure d'une guerre civile. La répression s'abat sur les partisans de Ben Youssef. Ce dernier prend la fuite vers la Libye, puis le Caire, début 1956. Paradoxalement, cette rivalité fera plus de victimes que la lutte anticoloniale. Et elle ne s'achève que par la mort de Salah Ben Youssef. Francfort, 12 août 1961, Ben Youssef est attiré dans un piège par des agents tunisiens. Il est assassiné. Cette ombre sévère au tableau donne une couleur autoritaire au nouveau régime qui s'installe. Elle n'empêche pas Bourguiba de triompher. Il proclame l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956, après 75 ans de présence coloniale française. Bourguiba savoure le fruit de son long combat. L'écrivain juif tunisien Albert Memmi, qui s'est engagé en faveur de l'indépendance, explique pour RFI le triomphe de Bourguiba par sa force de caractère.
C'est un homme qui a passé 14 ans en prison. C'est un peu comme Mandela. Il n'avait jamais cédé. Jamais. C'est un animal de première grandeur, respectable, qui doit garder sa place, je crois, dans l'histoire.
Au fait de sa gloire, Bourguiba adresse des mots de réconciliation aux anciens maîtres.
Après tous les tragiques et douloureux événements qui ont troublé profondément notre vie sociale, je veux, m'adressant à vous, Tunisiens, mes frères, à vous, Français et Européens, mes amis, appelés à cohabiter avec nous sur cette terre traditionnellement hospitalière, que mes premiers mots soient un appel à la concorde, à l'apaisement des esprits, à l'oubli des conflits et des querelles d'hier. Nous savons bien que rien ne peut se construire dans la division et la haine.
Quelques jours plus tard, les Tunisiens élisent une assemblée constituante. Là encore, Bourguiba triomphe. Bourguiba va très vite. Dès l'année suivante, il met fin brutalement à la monarchie. Il proclame la République. Il devient le premier président de la République tunisienne par acclamation des membres de l'Assemblée. Ce chantier institutionnel derrière lui, Bourguiba s'attelle à celui qui lui tient le plus à cœur, celui de la société. Le premier, le plus important, celui auquel il attache son nom jusqu'à ce jour, c'est le statut de la femme. Le code du statut personnel est promulgué le 13 août 1956. Unique dans le monde arabe par son audace à cette époque. Il abolit la polygamie, interdit la répudiation, remplacée par un divorce moderne. Il supprime le droit de contrainte matrimoniale qui permettait au père de marier sa fille sans son accord. Et il incite les femmes tunisiennes à retirer leur voile qu'il qualifie carrément de linceul ou de misérable chiffon. Un peu plus tard, en 1973, il libéralise l'avortement, avant la France. Il s'en vantera d'ailleurs dans cet entretien avec Jacques Chancel en 1974.
Monsieur le Président, vous avez vu que la loi sur l'avortement est passée en France.
Oui.
Avec une forte majorité. Ben,
nous,
comment réagissez-vous?
Nous n'avons précédé la France sur ça.
Nous avons admis, n'est-ce pas, le droit à l'avortement de la femme dans les 3 mois, dans les 3 premiers mois. En France, c'est les 10 premières semaines, même sans l'accord du mari. Nous avons fait une révolution énorme sur le plan du statut personnel de la femme. Aucun pays musulman n'a fait ce que nous avons fait. J'ai interdit la bigamie, j'ai supprimé les tribunaux religieux, les tribunaux rabbiniques des juifs, les tribunaux mixtes, les tribunaux français.
C'est le respect humain qui vous a guidé, le respect de la femme.
Ça, c'est entre moi et ma mère. J'ai su comment elle a souffert, cette femme-là. Ma grand-mère qui a été répudiée, n'est-ce pas, après avoir mis au monde ma mère, n'est-ce pas, un caprice, n'est-ce pas, de mon grand-père, n'est-ce pas. Je dis ça, non. La dignité de la femme existe tout de même, qu'elle soit traitée au moins comme les ouvriers, n'est-ce pas, les ouvriers pour faire la grève. Il faut d'abord essayer de se mettre d'accord, n'est-ce pas. Eh bien, malgré un verset du Coran qui permet 2, 3 et 4 femmes, j'ai interprété, n'est-ce pas, la fin du verset, n'est-ce pas, pour interdire la bigamie.
Le président va plus loin encore dans ses adresses à la nation. Il critique le jeûne du Ramadan, le pèlerinage ou le sacrifice du mouton de l'Aïd. Il va jusqu'à boire un verre d'eau en public pendant le Ramadan. Il veut réinterpréter l'islam qu'il défendait ardemment lorsqu'il s'agissait de défendre l'identité tunisienne face à la colonisation. Désormais, il faut moderniser. La religion ne peut se placer en travers de la route. Il ne rompt pas avec l'islam, loin de là, mais revisite la religion à l'aune de la modernité. Ça lui vaut l'accusation d'apostasie de la part des radicaux islamistes, mais il parvient à calmer l'hostilité des autorités religieuses du pays. La vie privée du président est, elle aussi, transformée. Habib Bourguiba a regagné Tunis avec Mathilde à ses côtés. Mais dans les années 40, il a rencontré Wassila, fille d'une grande famille de la bourgeoisie tunisoise, les Ben Ammar. Devant les étudiants de l'université de Tunis, le président explique en 1973
« J'éprouvais soudain un choc violent. Ce fut le coup de foudre. Comment faire face aux graves problèmes de l'heure alors que j'étais pris d'une passion irrésistible ? Je restais déchiré. »
Leur liaison était à peine cachée et Wassila accompagna l'ascension de Bourguiba vers le pouvoir. Une fois à la tête de l'État, Bourguiba poursuit cette relation connue de tous. Il finit par divorcer de sa première épouse et se marie avec Wassila en 1962. Mathilde ne quitte pas pour autant la Tunisie et la vie du président. Une fois par semaine, le président lui rend visite dans sa résidence du Belvédère. Il va voir Mathilde, commentent les passants en voyant passer le cortège présidentiel. L'importance de Wassila va grandissant auprès d'un Bourguiba vieillissant. La première dame a son agenda. Elle fait même installer des micros dans le bureau présidentiel pour savoir ce que son mari dit à ses ministres. Elle développe sa propre politique étrangère. Elle défend les intérêts économiques de ses proches. Lorsque la santé du président défaille, elle va trop loin. Poussé par son entourage, Bourguiba finit par l'éloigner, puis par divorcer en 1986. Habib Bourguiba affiche de fortes convictions sur les questions sociétales, mais se révèle bien incompétent dans le domaine économique. Il délègue ce domaine à son gouvernement. Ça provoque des virages radicaux au gré des nominations. La Tunisie vit donc sa période socialiste avec Ahmed Ben Salah. Ce dernier introduit une économie planifiée, y compris un système contraignant de coopératives agricoles entre 1961 et 1969. L'expérience se termine mal, avec des affrontements sanglants entre forces de l'ordre et manifestants en 1969. Ben Salah est accusé d'avoir abusé de la confiance du président. Il est condamné à 10 ans de prison. Puis, un virage libéral en 1970, avec la nomination d'Eddy Nouira comme Premier ministre. Nouira attire les investissements développe le tourisme, favorise l'éclosion d'une classe moyenne. Mais les inégalités sociales se développent aussi. En 1978, c'est le drame. Les tensions sociales dégénèrent en affrontements. Le sang coule à Tunis.
En parlant devant les caméras, la télévision, vous risquez pour votre sécurité, pour votre emploi.
Et comment ? Je risque pour ma sécurité d'abord, pour ma peau avant mon emploi, parce que je serai arrêtée tout de suite, certainement, et je subirai toutes les forme de torture que l'on utilise contre n'importe quelle personne qui oserait parler. Les camarades ont subi toutes les formes, l'électricité, l'hélicoptère, les coups. Ils se sont fait marcher dessus par la milice. La police politique a participé à la torture. La DST est allée de Tunis pour torturer, pour extorquer des aveux.
En politique étrangère, enfin, Bourguiba a du mal à tenir le cap ambitieux qu'il s'est fixé. À l'indépendance du pays, la France a conservé une base dans le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie. La guerre d'Algérie voisine pèse sur les relations franco-tunisiennes. À l'été 1961, Bourguiba donne un ultimatum à Paris pour évacuer Bizerte. Le général de Gaulle ne cède pas. L'affrontement est inévitable, inégal, brutal. Il y a des milliers de morts, surtout des civils tunisiens et une vingtaine de militaires français. La France finit par évacuer Bizerte en 1963, mais la crise laisse des traces durables. Bourguiba a aussi des relations difficiles avec son voisin du Sud, la Libye, dirigée à partir de 1969 par le colonel Kadhafi. En 1974, Bourguiba, dans un moment d'égarement, accepte une union tuniso-libyenne qu'il dénonce quelques jours plus tard. Il le paye un peu plus tard avec l'attaque d'un commando armé venu de Libye sur le sud tunisien. France Inter, 1980.
Le chef d'État libyen Kadhafi fait figure d'accusé. Les Tunisiens sont persuadés que c'est lui qui a armé et entraîné le commando. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Hier soir encore, la ville de Gafsa était entièrement bouclée par l'armée régulière tunisienne. Pour rassurer l'opinion, la télévision locale a filmé le président Bourguiba en train de se promener tout seul à pied dans l'oasis de Nefta, à 80 km seulement de Gafsa. Une promenade qui aurait pu s'avérer dangereuse, puisque j'apprends à l'instant que des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans le secteur.
Bourguiba marchant seul dans l'oasis de Nefta, l'image est forte. Elle illustre aussi les difficultés du combattant suprême dans un monde arabe plus radicalisé que lui. Le président tunisien laisse sa marque encore sur le conflit israélo-palestinien. Il adopte initialement une position très modérée face à l'État hébreu. Il prône une politique des petits pas, comme celle qui lui a réussi dans la lutte pour l'indépendance. Mais il se heurte à la double intransigeance arabe et israélienne. En 1982, lors du siège israélien de Beyrouth, Bourguiba accepte d'accueillir en Tunisie Yasser Arafat, dont François Mitterrand a obtenu qu'il puisse quitter le Liban par bateau avec ses hommes. Un biographe de Bourguiba rappelle cette phrase prémonitoire du président. Il est très rare de voir un grand homme finir grand homme. Les problèmes de santé du combattant suprême se multiplient. Même son fils reconnaît qu'à partir de ses 80 ans, il est un vieillard atteint de gâtisme. Il ne réalise pas toujours ce qu'on lui fait faire. La paralysie guette la Tunisie. Le 7 novembre 1987, aux alentours de 5 heures du matin, des bruits insolites réveillent les occupants du palais présidentiel. La radio est silencieuse, le téléphone est coupé. À 6h30, la voix de Ben Ali retentit sur les ondes. Il évoque un rapport médical. Bourguiba est dans l'incapacité absolue d'assumer ses fonctions. De ce fait, ajoute-t-il, nous prenons en charge avec l'aide du Tout-Puissant la présidence de la République. On appellera ça un coup d'État médical. Ralph Pinto sur France Inter.
Une des premières déclarations du nouveau président a été de promettre une démocratisation de la société tunisienne.
Le peuple est digne d'une vie politique évoluée fondée sur le multipartisme, a notamment affirmé le président Ben Ali. Des propos accueillis avec satisfaction par Ahmed Mistry, l'un des principaux opposants à Bourguiba, président du mouvement des démocrates socialistes, au micro de notre envoyé spécial Marc Crêpe.
Bourguiba était l'obstacle. C'était le principal problème de la Tunisie. On ne pouvait plus avancer. C'était un blocage dans tous les domaines. Il fallait donc le faire. Ça a été fait. Maintenant, il faut avancer.
Bourguiba disparaît après 30 ans de règne sans partage. Son départ est un soulagement pour ceux qui le voyaient décliner. Mais ce soulagement sera de courte durée. Son successeur instaure un régime policier corrompu. La Tunisie étouffe. Bourguiba meurt 13 ans plus tard et son fantôme fait peur à Ben Ali. Ses funérailles le 8 avril 2000, dans sa ville de Monastir, donne le spectacle d'un régime paranoïaque qui a peur d'un mort.
C'est précédé par des forces spéciales de la police que le cortège funèbre arrive au centre de Monastir. Une clameur monte de la foule qui entonne l'hymne national. Toute l'après-midi, la police s'était employée à contenir la ferveur de la foule, frustrée de ne pouvoir approcher de plus près la dépouille du combattant suprême.
C'est mon père, ça. Mon père.
Il a laissé de bonnes traces en Tunisie. Toute la Tunisie aime Habib Bourguiba. Voilà.
Le soir même, Habib Bourguiba Junior, Bibi, le fils du président défunt, reçoit quelques journalistes présents à Monastir. Il ne décolère pas. Ben Ali nous aura tout volé, même les funérailles de mon père, dit-il. Funérailles volées, mais le souvenir de Bourguiba n'a pas disparu, là où Ben Ali finira renversé par une révolution, une vraie, le 14 janvier 2011. Il meurt en exil en Arabie Saoudite. Bourguiba avait prévenu.
Je suis sûr, le bourguibisme continuera après Bourguiba.
Nous sommes avec l'historien Adèle Tifi pour ce voyage dans le temps et dans l'espace en Tunisie. La division avec Ben Youssef a été une ombre à la toute-puissance de Bourguiba au moment de l'indépendance. Quelle a été l'importance de cette rivalité ?
En fait, au début, il n'y avait pas de rivalité. C'était les deux leaders du Destour jusqu'en 1954-1955, en fait. Rien n'opposait Bourguiba à Ben Youssef. Moi, je pense, ça c'est mon interprétation, je pense que le changement a commencé quand Salah Ben Youssef a été chargé des relations étrangères du mouvement national tunisien, et c'est là qu'il a côtoyé, en fait, les nouvelles vagues, un tout petit peu comme le nationalisme arabe, le tiers-mondisme, qui prônait plutôt la révolution pour faire face à la colonisation. Alors que Bourguiba est resté donc dans le cadre du bureau politique à Tunis, il avait plus de pragmatisme, il connaît la situation à l'intérieur de la Tunisie. Donc Salah Ben Youssef a été imbu quelque part par ses idées révolutionnaires, il était très attiré par Nasser et tout. D'ailleurs, au début, Salah Ben Youssef, il avait participé aux négociations en Suisse en 1954 et 55 qui ont donné lieu à l'autonomie. Après, il l'avait refusé, mais il l'avait refusé juste quand il était en Égypte, parce que même les Égyptiens ne voyaient pas de bon œil cet accord. Après l'indépendance de la Tunisie, la situation a changé. On n'est plus dans l'enjeu de la colonisation et de la décolonisation, mais on est dans une autre situation où un État fait face à un opposant. Et là, la logique change un tout petit peu. Bourguiba ne voyait plus Salah Ben Youssef comme un partenaire, mais comme un concurrent au pouvoir, comme une certaine force, surtout qu'il a commencé, Salah Ben Youssef va ressembler à côté de lui des anciens, ce qu'on appelle en Tunisie les fellahas, ça veut dire ceux qui ont pris les armes contre la France. Donc, dans le contexte de la construction de l'État-nation, Salah Ben Youssef est devenu une menace à l'État, dans le sens global du terme, et pas uniquement à Bourguiba, il faut l'éliminer, et c'est ce qui s'est passé malheureusement.
Bourguiba donnait le sentiment d'avoir fait des choix assez clairs sur les questions de société, comme la place des femmes par exemple, mais d'hésiter sur les choix économiques et sociaux. À quoi est-ce dû selon vous ?
Bourguiba lui-même avait répondu, il avouait clairement sa méconnaissance de l'économie. D'ailleurs, il souffrait beaucoup, il se posait des questions. Comment peut-on émanciper cette société alors qu'on n'a pas de ressources ? Il faut tout faire. D'ailleurs, c'est ce qui explique, à un certain moment, il s'est orienté vers une forme de socialisme pendant les années 60. Après, à partir de 1972, c'est l'économie libérale et tout. Et Bourguiba, d'ailleurs, il ne s'occupait pas directement de la vie économique. Toujours, il nomme un premier ministre. Pendant les années 70, c'était surtout Hedi Nwira. C'est très important. Il n'intervient pas dans les choix économiques. Bourguiba, pour lui, c'était l'émancipation sociale, c'était les affaires politiques et les affaires étrangères. Donc, du coup, il donnait beaucoup, beaucoup d'autonomie à ses premiers ministres. D'ailleurs, les premiers ministres étaient connus surtout pour leurs compétences économiques. Et d'ailleurs, pas mal de ministres l'ont évoqué dans leur biographie.
Que reste-t-il du bourguibisme ? Comment les jeunes générations regardent-elles cet héritage, surtout après la révolution de 2011 ?
Alors, disons, en 2011, juste après la Révolution, pratiquement on ne parlait pas de Bourguiba. On assiste à un retour très fort de Bourguiba à partir de 2012-2013, quand les islamistes étaient au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les islamistes donc sont venus avec leur culture pré-étatique. Ils refusaient tous les signes du nationalisme tunisien, y compris l'indépendance, le mouvement national, Bourguiba, la modernisation, l'enseignement moderne. Donc il y avait une remise en cause de l'État-nation en Tunisie. La réaction de la société, c'est de revenir à ces symboles du nationalisme tunisien. D'ailleurs, il y avait le retour de Bourguiba, un retour en force, parce que c'est la grande figure du nationalisme tunisien et de l'État-nation en Tunisie. En même temps, il y avait le retour d'autres symboles, comme le soufisme, par exemple. Le soufisme, je parle de la religion de l'islam populaire. Donc, tous les symboles de la tunisianité, Bourguiba est revenu en force dans ce contexte-là. Et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de Bourguiba en tant que pensée ou en tant que projet? Il est toujours d'actualité. D'ailleurs, le premier parti, d'après les sondages, c'est un parti d'historiens qui revendique son appartenance à Bourguiba. Il représente toujours l'identité nationale. C'est pratiquement la première figure du nationalisme tunisien et de l'identité nationale tunisienne. La deuxième chose, c'est actuellement, surtout avec ce qu'on avait vu en Tunisie durant cette décennie de transition démocratique, avec l'effritement de l'État, Bourguiba représente la rationalité de l'État moderne, l'organisation de l'administration, l'enseignement moderne, la santé et surtout la qualité de l'éducation. Tout ça, ça revient en force aujourd'hui en Tunisie. Et d'ailleurs, même les jeunes qui n'ont jamais vécu à l'époque de Bourguiba, on voit un certain engouement à la recherche de vieux discours de Bourguiba. Moi, je vois dans les réseaux sociaux des jeunes qui n'ont jamais connu Bourguiba et tout. Mais quelque part, c'est un refuge face au désarroi actuel et face à la déperdition actuelle des Tunisiens.
En 2011, pendant les journées révolutionnaires, une voix s'élève. Celle d'Emel Maslouti, qui chante a cappella au milieu de la foule « Kelmti Hora, ma parole est libre ». La scène se déroule sur l'avenue du centre de Tunis, qui porte le nom de Habib Bourguiba. Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Documentation, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe et Antoine Vuilloz. À la prise de son, Florian Dorimini. Au mixage, Jai Santaous. À la réalisation, Hélène Bisio. Oh,
أنا في حلق الظالم شو أنا ريح لسعتها النار أنا روح المانسيو